messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
C'est dimanche, 22h03 exactement, et vous êtes bien dans La Causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et ce soir, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves qui est là.
Bonsoir. Et Fabien.
Salut. Et puis on va saluer tout de suite Jonathan, Nadège et Emma qui ne sont pas avec nous ce soir mais qui reviendront, ne vous inquiétez pas. Voilà.
C'est ça.
Voilà. Alors, La Causerie, ben, si vous voulez nous contacter, lacausericanu@gmail.com. Si vous voulez réécouter les émissions, c'est sur les blogs, et ça, Jean-Yves va vous donner l'adresse.
C'est blogs, au pluriel donc, .radiocanu.org/lacausserie.
Voilà. Et puis sinon, on a un espace Facebook, mais voilà, c'est plus pratique de passer par le blog ou par les mails pour nous contacter.
Bah oui, c'est plus mieux sympa. Et c'est, ça permet en fait à plus de monde d'avoir accès aux discussions qui peuvent se mettre en place dans, ouais, via les commentaires.
Puis c'est surtout que c'est un peu là qu'on répond.
Oui, oui, c'est ça.
C'est un peu mieux.
C'est ça. Et ben ce soir, une causerie moins gueule de bois qu'il y a deux semaines. Et où 100 personnes en fait en invité. Ouais, je suis parti dans un truc.
Oui, alors après, la semaine dernière, on avait
Fracou.
Tu veux leur refaire toutes les causeries comme ça? Et donc, vous souvenez-vous, il y a un an et demi.
Non. Allez, on se reprend. Je me reprends. Je vais pas vous tremper dans ce truc-là. Et ben, c'est toi, Fab, qui ouvre la causerie. Tu voulais, oui, nous causer d'un truc de citoyenneté.
Oui, parce que alors en ce moment, on parle beaucoup de la déchéance de nationalité. Vous savez, c'est un peu le truc à la mode. Alors, on va être très clair, hein, une déchéance de nationalité, c'est juste de la merde. Hein, voilà, faut pas le dire autrement. Parce que c'est juste une nation qui refuse d'admettre qu'elle peut avoir des gens en son sein qui pètent un câble. Et c'est juste ridicule de dire, oulala, t'es un vilain, je t'enlève la nationalité. Enfin, c'est... On voit le degré zéro de la politique et c'est surtout quelque chose qui est très très prisé par l'extrême droite et qui depuis des années le réclame et qui commence à voir ses idées un peu arriver dans la société malheureusement.
Sans avoir le pouvoir.
Mais en fait l'extrême droite a rarement besoin du pouvoir pour que ses idées passent dans la société. En fait il suffit d'événements un peu dramatiques pour qu'elle insuffle un souffle un petit peu nauséabond et que ce souffle les gens y répondent. Donc c'est un peu triste parce que c'est un peu ça. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Alors non pas que c'est pas un sujet intéressant, mais plutôt parce que il y a d'autres choses qui sont en cours. Et je vais vous parler ce soir de quelque chose qui est un peu passé inaperçu et ça m'a un peu surpris. C'est le discours à la jeunesse qu'a fait François Hollande dans le cadre des vœux à la nation. Alors vous savez, chaque année, le président de la République en France présente des dizaines de vœux à plein de gens.
Il a, ah oui, c'est son marathon. Ouais. Hein.
Bah c'est ça, c'est que c'est un petit peu. Bon, c'est un petit peu. Ça date un peu. Il faudrait pas l'oublier. Ça date un peu de la période où la France était monarchique. C'est-à-dire que pour que l'année commence, il fallait que le roi décrète que l'année commence. Donc on garde cette bonne vieille tradition à la con et le président va faire des discours comme ça. Voilà. Et en fait il a chaque année, alors je crois que c'est depuis Sarkozy d'ailleurs que ça a été remis vraiment en avant, l'idée de faire des vœux à la jeunesse. Alors c'est à la jeunesse et aux forces de progrès du pays. Alors, ça veut pas dire grand chose mais voilà, c'est un truc un peu flou. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé dans ses vœux ? Alors, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il annonce quand même aux jeunes qu'il allait lutter pour que l'emploi des jeunes soit un peu amélioré. Il y a quand même pas loin aujourd'hui selon les quartiers, parce que c'est toujours pareil, c'est pas homogène. On dit qu'il y a 33% de chômage chez les jeunes. En réalité, il y a des quartiers où on atteint les 60%. Et d'autres endroits où il y a quasiment pas de chômage, mais ça c'est les inégalités à la française, bon vieux truc. Et on aurait pu se dire quand même que voilà, le chômage allait être au cœur de son discours. Bah non, pas du tout. Il a fait un discours où ce qu'il a mis au cœur, c'est la citoyenneté. Alors, c'est un peu étrange, parce qu'on se dit d'un seul coup, mais alors, qu'est-ce que vient foutre la citoyenneté dans un discours en début d'année, comme ça alors, si, c'est un peu bizarre. Alors en ce moment, on a vu, pour ceux qui ont un peu observé hier soir, il y avait un premier ministre à la télévision qui a fait 2 heures pour nous expliquer que les symboles étaient ce qui avait de plus important. je crois que les gens ne mangent pas des symboles. Enfin, j'ai cru comprendre ça, hein, mais...
Alors, bah, c'est vrai, ça se digère mal, en tout cas.
Voilà. C'est vrai que les symboles, ça peut être important, c'est vrai, on va pas le nier, mais à un moment donné, quand on fait que du symbole et du symbolique, bah en fait, on brasse du vent. Hein, ça s'appelle comme ça, très clairement. Donc, bah là, en fait, François Hollande, il a fait à peu près la même chose avec les jeunes, sauf qu'il n'a pas réellement brassé du vent. Il a insufflé une nouvelle idée. Il a insufflé l'idée d'avoir un carnet de citoyenneté. Alors, dit comme ça, ça paraît super bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va mettre dans son petit carnet de citoyenneté ? Ben en fait, vous ne rêvez pas, mais c'est comme à l'école. C'est-à-dire que vous allez avoir des notes de citoyenneté dans un carnet qui sera remis aux 16 ans de tous les citoyens français. Et on leur dira en fait quels ont été les actes citoyens qu'ils ont faits depuis leur naissance et quels sont les actes citoyens qu'il leur reste à faire pour devenir enfin des vrais, des beaux, des grands citoyens de la grande nation France. Ouais, ça sonne pas très très bien.
Donc, ouais, ça sonne mal. Hein.
Ça fait un peu peur, d'un seul coup. Et puis surtout, on voit bien la logique du truc. C'est-à-dire que, ben, en plus d'avoir maintenant, avec la déchéance de nationalité, une inégalité de fait entre les binationaux et les nationaux, enfin les gens qui n'ont qu'une nationalité et les gens qui en ont deux, pardon, ben là, en fait, on crée aussi une inégalité de citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y aura les bons citoyens, ceux qui auront un carnet bien rempli, et les mauvais citoyens, ceux qui auront un carnet pas vraiment bien rempli. Voilà. Alors, bah, c'est comme ça, les gens, c'est un peu passé à l'as, mais il y a quand même des gens, notamment des gens de l'éducation nationale, qui sont montés au créneau, qui ont dit, mais attendez, c'est quoi ce carnet citoyen ? Qui va pouvoir, après, regarder ce qu'il y a dans le carnet citoyen ? Bah, très clairement, dans l'exécutif, il a une très belle idée, c'est que le carnet citoyen pourra être demandé par les employeurs. Alors, attention, quand on dit ça, ça fout un peu la trouille. Ça veut dire qu'en gros, votre citoyenneté, si vous la ratez, ça va vous pénaliser toute votre vie. C'est en gros ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en fait, on dit, oui, mais le carnet citoyen, ça peut permettre à un employeur de doser quel est le degré d'implication d'un futur salarié. Ouais. C'est magnifique, hein, quand même. Hein.
Alors, ça tient sur rien.
Alors, tout de suite, quand ça a été annoncé, il y a plusieurs personnes qui ont dit non, mais non, en fait, on ne le fera pas voir par l'employeur, c'était une idée à la con, mais peut-être on le mettra quand même. Mais en fait, ce qui est un peu problématique, c'est qu'en gros, on est en train de trier les gens. Parce que c'est quoi un bon citoyen ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le carnet ? Alors par exemple, est-ce qu'il faut se lever tous les matins et saluer le drapeau ? Et ça vous fait 3 points ? Quoi, je sais pas. Est-ce qu'il faut connaître les 17 couplets de la Marseillaise par cœur ? Est-ce qu'il faut avoir une connaissance accrue des arcanes politiques françaises pour savoir est-ce qu'il faut aller voter ? Est-ce que quand on ne vote pas, on est un mauvais citoyen, par exemple ? Alors, comme c'est avant 18 ans, on vous dit « mais non, ça, ce ne sera pas dans le carnet ». Sauf qu'il suffira d'écrire dans le carnet « si tu ne votes pas, tu n'es pas un bon citoyen ».
Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que le carnet, il est censé prendre fin ou il va être... Enfin, genre, on va... Enfin, le jour où on t'incinère, ben, tu vas partir en fumée avec ton avec carnet, de citoyen, tu vois.
C'est toute la question. Parce que figurez-vous que selon les sources, il y a des gens qui parlent d'un carnet de type, vous savez ce qu'on vous remettait à l'école quand, pour vous dire le truc de code de la route. On vous donnait un petit carnet, on vous disait attention, quand tu traverses, il faut regarder à gauche et à droite. Et puis voilà, bon. Si c'était ça, ce serait déjà un peu ridicule, mais ce serait moins gênant. Mais là, non, il y a des gens qui disent non, ce carnet, il faut qu'il ait un poids fort idéologique et pratique. Alors là, ça devient problématique, parce qu'idéologique, bon. Tout est idéologique. Oui. Mais pratique, ça veut dire qu'à un moment donné, on va lui donner vie à ce carnet, puis on va lui donner une raison d'être. Et il y a des gens, notamment au Parti Socialiste, qui disent « Ah, quelle belle idée, on n'a qu'à faire comme pour le carnet de santé. Il va suivre toute la vie le citoyen. » Donc c'est là que ça devient un peu hallucinant. Alors déjà qu'un parti qui se dit de gauche ait des idées pareilles, ça fout un peu la trouille. Mais alors en plus, je me demande qu'est-ce qu'on va écrire dans ce carnet. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises notes dans notre vie. Toute notre vie, vous aurez un carnet de citoyenneté. On dit, ah, attention, t'es pas allé voter au régional. Alors, moins 3 points. C'est un truc c'est de fou, quoi. Mais voilà, alors c'est, en plus, c'est d'une bêtise hallucinante parce qu'on se rend vite compte que bah, c'est complètement surréaliste comme outil. On sait que ça n'a aucun intérêt parce que, alors, surtout. Enfin, surtout pour ceux qui ont connu un petit peu les systèmes scolaires, on sait bien que de toute façon, bah, une fois qu'on a la note, on s'en fout. Après, on a eu la note et on se casse. Quoi.
Le système de notation à l'école, il me fait relativement un petit peu,
c'est-à-dire qu'on
est un peu chiant. Mais alors là. Noter quelqu'un sur sa... Mais ce qui ça veut dire,
et
quoi ?
Et qui va noter ? Parce que là, la question arrive.
Et pourquoi ? Mais on s'en veut, ça veut rien dire.
Donc, c'est toutes ces questions-là qui apparaissent et on voit bien quand même l'idée qui est derrière, qui est l'idée d'avoir un contrôle de l'État renforcé sur la vie de ses citoyens. Parce que si on commence à dire qu'on peut être évalué sur sa citoyenneté tout au long de sa vie, ça revient quand même à dire, à un moment donné, qu'on a une légère envie d'avoir un contrôle total sur la vie des gens qui vivent sur le territoire. Et alors, cette idée-là, en fait, elle est vachement bien amenée, parce que pourquoi elle apparaît ? C'est parce que, on nous dit, les gens qui commettent des attentats, c'est des mauvais citoyens. Vous voyez, donc il tue d'autres gens, donc c'est pas bien. Alors, a priori, un militaire est un bon citoyen, pourtant il tue aussi d'autres gens. Enfin bref, c'est un
oui,
c'est
mais débat. Il a les bonnes...
Il a les bons ordres.
C'est ça.
vous voyez, déjà au départ, c'est assez étrange. Mais alors en plus, on vous dit ça, on vous dit oui, parce que le terroriste, c'est la personne qui refuse la citoyenneté. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi basique que ça. Puis surtout, moi je me dis... Ça va vraiment changer quelque chose si le terroriste il incarnait avec des mauvaises notes de citoyenneté. C'est un peu comme la déchéance de nationalité. C'est-à-dire que le gars qui a envie de se faire péter la gueule au nom de je ne sais quelle idéologie à la con, il va pas se dire ah bah non, je vais pas me faire péter la gueule, sinon je vais avoir 5 points de moins sur mon carnet de citoyenneté et je vais avoir ma déchéance de nationalité. Mais c'est vraiment des réponses, mais d'un ridicule absolu face à une problématique qui est beaucoup plus complexe que simplement de savoir si les gens ont envie d'être citoyens ou pas, quoi.
En plus, on est vraiment dans ce truc de toujours, c'est de l'agitation, en fait.
C'est ça.
Quoi. C'est de l'agitation, alors, pour faire croire qu'on fait quelque chose, mais quand on regarde, ils font quand même des choses.
Ouais.
Ou en tout cas, ils parlent de faire des choses et qui sont quand même très rarement d'idéologie proche de mouvement émancipateur, quoi.
Ah bah clairement, parce que là,
que plus ça va et plus ça va droite, toute, quoi.
Bah on régresse, c'est-à-dire que même si on se basait sur l'idéologie première de ce qu'est théoriquement un État vu par la gauche au sens large du terme, c'est censé vous apporter la liberté et pas vous apporter la coercition, parce que c'est ça, il y a comme un souci. Hein, voilà. Mais là, on voit que non, on va vers la coercition permanente de l'État, le fait qu'on puisse fouiller dans votre vie en permanence et tout. Alors, comme ce truc a fait un peu flop, ils essayent de redéfinir ce que ça va être, parce que du coup, ça part dans tous les sens. Mais on voit bien que l'idée, elle est quand même sacrément et foutrement flippante. Mais elle s'accompagne d'une autre idée encore plus flippante.
Ah, parce que, vraiment, quand même.
Parce qu'après leur avoir dit, je vais vous mettre un carnet et des mauvaises notes, François Hollande a dit, vous savez, vous avez une journée d'appel pour la défense et les initiatives. Hein, c'était une journée. On va passer à une semaine.
Chic.
Parce que faut pas déconner, hein, bande de.
L'armée a besoin de. La nation a besoin de vous.
Donc voilà. Donc. Bah là, c'est aussi un autre truc qui est un peu flippant. Parce qu'en fait, on va remettre des gens, très clairement, ça a été annoncé, c'est dans les casernes. Donc, on va remettre des gens pendant une semaine dans les casernes pour leur montrer l'ensemble des engagements possibles pour la nation.
Bah, on pourrait le faire dans des universités.
Mais on pourrait le faire n'importe où ailleurs. Hein,
mais quelque chose qui fait appel à du savoir. Mais
sauf que là, non, c'est bien dans les casernes.
C'est ça.
Et on voit bien tout de suite que l'idée, elle est très, très importante pour François Hollande. C'est l'idée de donner envie aux gens de retourner faire l'armée et de s'engager dans l'armée. Parce que clairement, ce qu'il y a derrière, c'est ça, faut arrêter de se mentir, c'est pas une notion de, on va leur apprendre un peu plus de citoyenneté, blablabla, c'est de la connerie, c'est l'idée, c'est de faire du bourrage de crâne pendant une semaine aux gens, pour qu'ils s'engagent.
Ouais, il faut de la chair à canon, hein.
C'est ça.
Toute quand on est dans une tout pays qui part en guerre, il lui faut de la chair à canon.
Exactement.
Vu qu'il n'y a plus de service militaire en France, il faut leur donner l'envie autrement.
On le recrée, en quelque sorte. On recrée. Alors, Pour essayer de gommer ça, François Hollande a dit « Oui, mais alors, on va aussi renforcer le service civique. » Parce que ça, c'est vachement cool, le service civique.
Ah ouais.
C'est des jeunes qui vont pour 400 euros par mois faire du travail qui, normalement, est payé au minimum au SMIC. et puis, ils vont faire ça parce qu'ils ont de l'engagement.
Hein, ah bah oui.
Alors, on va être très clair. Si on augmente, selon les proportions qui ont été annoncées par François Hollande, le service civique, on détruit encore des emplois. Parce qu'en fait, le problème est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service civique ne vient pas en plus d'emplois, il vient à la place d'emploi. Et que de plus en plus les gens qui font un service civique sont embauchés dans des secteurs qui normalement ils font leur service civique en tant que bénévole dans des parfois légèrement rémunérés dans des secteurs qui normalement devraient embaucher. C'est par exemple l'aide à la personne. Aujourd'hui, on vous dit que l'aide à la personne, on manque énormément de monde. Sauf qu'en fait, les maisons de retraite et tout ça, elles attendent avec impatience l'arrivée du service civique, parce que quand vous pouvez dédommager quelqu'un de 400 euros par mois au lieu de lui donner un salaire, vous n'allez pas cracher dessus, quand vous êtes un bon vieux capitaliste qui tenait une maison de retraite. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'idée du service civique, ça ne va pas résoudre le problème des jeunes, au contraire, ça va encore une fois paupériser toute une population. Et puis plus grave, c'est un cache-sexe. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça s'applique à partir de janvier 2017. Et qu'est-ce qui va se passer en mai 2017?
Tiens,
pas une élection.
Ouais, c'est ça, je crois.
Eh bien, il y a des gens qui ont fait un petit calcul tout bête. Si vous prenez les gens qui sortent de l'école et que vous augmentez le nombre de services civiques, vous allez faire stagner, voire diminuer le chômage entre janvier 2017 et mai 2017.
Parce que le service civique, c'est de quel âge à quel âge?
Le service civique, c'est applicable à n'importe jusqu'à 26 ans, je crois, si j'ai ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, ils parlent de le réélargir.
Ah bah oui, je pense qu'il faut le faire jusqu'à 56, 60 ans, histoire qu'en fait, il n'y a plus de chômeurs, quoi.
Et en fait, c'est ça, c'est que ça va servir de cache-sexe total, en fait, à la montée prévue du chômage en 2017. Et c'est là que c'est problématique. C'est qu'aujourd'hui, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, c'est bien, les jeunes, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de... » Non, mais arrêtez vos conneries. La plupart des gens que je connais qui ont fait un service civique, c'est qu'ils avaient besoin, sur leur CV, d'avoir une première expérience professionnelle et qu'on leur proposait que ça. Je connais rarement des gens qui se sont dit « Ah, je fais un service civique parce que c'est hachement bien d'être pas bien payé et de devoir faire de la colocation à 12 et de... » Non mais arrêtez quoi. Je veux dire, la réalité c'est qu'aujourd'hui, ça sert de plateforme parce qu'on a besoin sur le CV d'avoir des lignes dans la majorité des cas. Et on est en train en fait de créer, d'un côté de la chair à canon, avec la journée allongée d'une semaine, et puis de l'autre côté de la chair à patron. C'est bien, c'est beau, il paraît que c'est socialiste.
Ah oui,
voilà. Donc c'est quand même assez hallucinant. Voilà, mais je voulais parler de ça parce que je trouvais que c'était un peu passé à l'as, c'est que personne n'en avait vraiment parlé à part quelques personnes dans l'éducation nationale et quelques personnes aussi dans des secteurs assez précis comme par exemple l'emploi dans l'aide à la personne. Alors attention, pas les patrons, les syndicats de ces milieux-là, qui expliquaient en fait, ces métiers-là, qui expliquaient en fait que eux, ils voyaient de plus en plus d'emplois être détruits par l'arrivée des services civiques et que c'était pas tout à fait logique. Parce qu'il y a un exemple qui était donné, je vais le dire, par la CGT d'un grand groupe de maisons de retraite dont je ne dirai pas le nom, ça leur fera pas de pub comme ça, qui expliquait que eux, en fait, depuis un certain nombre d'années, ils ont vu augmenter le coût pour les résidents. Ouais. C'est-à-dire le coût avait augmenté d'environ 30% en 7 ans. Et dans le même temps, la masse salariale avait diminué de moitié parce qu'on prenait de plus en plus de services civiques dans ces maisons-là parce que c'était de l'aide à la personne indirecte. Enfin, c'est tout un truc un peu bateau. Et, voilà. Et donc, ils expliquaient qu'au final, l'argent qui était donné en plus, c'était pas dans le confort des malades ou dans le confort des personnes âgées. C'était avant tout pour les actionnaires de ce grand groupe de maisons de retraite. Et qu'en fait, on faisait un joli cadeau à travers ces systèmes-là. Et quand ils ont dit ça, il y a des gens qui ont dit « Oui, mais c'est dégueulasse, parce que les gens qui font un service civique, c'est aussi parce qu'ils aiment les personnes âgées. » Alors, comme a répondu la personne, la syndicaliste, parce que c'était une femme, elle a dit « Le problème, c'est pas d'aimer, le problème, c'est de faire un métier. » Et que ça demande du professionnalisme. Et c'est pas juste le fait d'avoir de la compassion et de la charité, c'est un métier. Et donc, si on commence à dévaluer, y compris les métiers, c'est casse-gueule, quoi. Mmh. Voilà. Donc voilà, c'était tout ça, et je trouve que c'était un peu trop mis... sous le tapis,
c'est
comme s'il avait rien dit.
C'est pas faux.
Voilà.
Et ouais. Et ben.
On fait un petit peu une petite coupure musicale.
Bah ouais, on fait une petite pause musique.
Regarde le monde, la terre qui penche, le sentier, la résistance n'est qu'espérance. L'entends-tu? Viens mon frère et brisons le silence. De concert, nous ferons mieux tous.
tous ensemble le cri des indignés. Le cri d'un indigné. Pas d'ailleurs, pas de fuite. Nous tairons les sources de nos origines. Sans frontières ni limites, envisageons les images qui n'ont pas de suite. Leur rumeur gronde, ils sillonneront le monde. Un bout de chaos où nous vivons chaque seconde. Sans piternel, combat des guerriers de l'ombre. Un rendez-vous sur les sommets de la fronde. Que sonne l'heure avant qu'explose la bombe. Que sonne l'heure avant qu'explose la bombe. Le cri des indignés. Le cri de l'indigné. Pas d'ailleurs, pas de fuite. Nous tairons les sources de nos origines. Sans frontières ni limites, envisageons les images qui n'ont pas de suite. Un cri du cœur hurlé à plein poumon, l'entends-tu? Viens mon frère et vont très loin des sentiers battus. Un bras de fer brisant le silence de la rue. Que sonne l'heure avant qu'explose la bombe.
Oh, je me suis planté. Bon retour dans la causerie de dimanche de 22-23h sur Radio Canu ou radiocanu.org. Et là, vous venez d'entendre Merzin avec Les Indignés. Voilà. Et j'aime bien ce groupe de rock un peu pop.
Un peu popeux.
Un peu popeux parfois, breton. Voilà. Alors Jean-Yves,
ouais.
Il paraît que ça fuit en Californie.
Ouais, ça fuit grave. Alors je vais vous parler en fait d'une fuite qui a lieu sur le site d'Aliso Canyon, le canyon Aliso, voilà, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles. Ok.
Los Angeles donc.
Oui c'est ça, désolé. Pardon, allez non, sérieux quoi. Donc le dépôt de gaz du canyon Aliso est l'une des infrastructures gazières les plus importantes des États-Unis et c'est le plus gros entrepôt souterrain de méthane de l'ouest des États-Unis. Et c'est exploité par une société, je vais vous la faire une seule fois.
Ouais, vas-y.
C'est Southern California Gas Company. Donc on va l'appeler la SoCalGas. Ouais. Ok, ça va pour tout le monde ?
La SoCalGas ?
Ça va, comme... ouais, ça SoCal. Va, c'est cool. Hein, c'est les initiales, enfin, tout ça. Ok, pour resituer un petit peu tout ça quand même, parce que enfin, moi j'ai aussi découvert plein de trucs, enfin, le stockage, tout ça, tout ça. En fait, le stockage, ça se passe en fait, dans des cavernes souterraines. Qui sont où est stocké le gaz, qui est acheminé par la part des pipelines et en fait qui est ensuite récupéré par des puits, dont un fuit.
D'accord.
Voilà la fuite. Hein. Et alors, en fait, ces cavités-là, en fait, avant, elles étaient, c'était d'où on a extrait du pétrole.
D'accord. Donc on enlève, enfin une fois que le pétrole
a été viré. On a
enlevé
le pétrole, enfin on a bouffé le pétrole ouais. et on a remplacé le pétrole par du gaz et on s'en sert comme stock.
Par du gaz liquéfié, en fait, ouais.
Voilà. Et en fait, donc il y a une fuite, en fait. Et alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a fait que d'un coup ça fuit. Par contre, on sait que c'est un trou de 18 cm dans une des parois qui recouvre le puits à 914 mètres de profondeur. C'est un petit peu plus embêtant. On y va moins facilement.
Oui, c'est clair. Donc il y a un trou de 18 cm à 914 mètres de fond dans le tuyau. Quoi.
C'est ça.
Et donc du coup, ça sort vers l'atmosphère.
Et donc, ça sort, ça remonte. Et alors, pour avoir un peu une estimation, etc., c'est des mesures qui ont été faites. Et c'est, la fuite, elle émettrait à peu près environ 1000 tonnes de méthane par jour.
C'est énorme.
C'est pas anodin. Et donc, au 31 décembre, donc en deux mois, les 72 000 tonnes de méthane relâchées jusque-là, elles représentaient le quart des émissions de méthane de la Californie pour 2015.
C'est hallucinant, quoi.
Donc, alors avant, je vous ai dit le 31 décembre. Parce qu'en fait, la fuite, elle a commencé le 23 octobre.
Ah ouais.
Donc, oui. Donc, on a un petit peu des petits problèmes. Je vais revenir dessus après. On est un peu dans la merde. Non, alors. Après, déjà, on peut se poser une question. Enfin, est-ce que c'est dangereux, etc. Donc, après, moi, je suis allé voir. Enfin, je suis allé voir. Je me suis pas déplacé pour aller voir. Hein.
Mais t'es pas allé en Californie
non,
ce week-end
non,
pour
non,
voir.
Non,
en fait.
Non, bah Canu prenait pas les frais en charge, donc non quoi. Et non, en fait, c'est il y a des échantillons, enfin d'air qui sont récoltés, enfin il y a des analyses qui sont faites, etc. Quand même parce que voilà, c'est pas cool. Donc on y retrouve des taux effectivement, un taux anormal de méthane, d'éthane et de propane. Aucun n'est toxique. C'est déjà bien. Même, bon, quand même, si à forte concentration, quand même, l'inhalation de méthane, ça peut un petit peu entraîner quand même des petits problèmes respiratoires ou neurologiques. Ce qui veut quand même dire que c'est pas quand même tout sympa non plus, quoi.
Ouais, c'est pas anodin, quoi.
Non, c'est pas anodin. Et donc, il y a déjà des gens, en fait, qui ont été relogés. Il y en a 10 000 déjà des habitants qui ont été relogés par la boîte, en fait, par l'entreprise SoCalGas, donc
parce,
je vous disais.
Parce que, comme souvent aux États-Unis, en fait, il y a une ville qui doit être au pied du. Enfin, pas très loin, en fait, ouais, de là où était l'extraction de pétrole. Parce
oui,
que.
J'ai plus le nom, je l'ai plus.
Ouais, non, c'est pas grave, mais en fait, souvent.
C'est Ranch Valley. Non, pas Ranch Valley, merde.
Ranch Valley, peut-être, ça me dit quelque chose. Parce qu'en fait, c'est souvent. Enfin, c'est un truc qui est un peu surréaliste, mais ça vient du vieux rêve américain, vous savez. Quand, en fait, ils cherchaient du pétrole et ils faisaient la ville autour du puits. Mmh. Et en fait, ça, c'est resté, en fait. Même
et puis, ça faisait des circuits plus courts.
Bah oui, tout à fait.
De là où on l'extrait à là où on le consomme, en fait.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a déjà des gens qui ont été déplacés aux frais de cette boîte, hein, quand même. Il y a des écoles élémentaires qui ont été fermées, deux pour l'instant. Et il y a un scientifique, en fait, de l'Université de Californie qui dit, quand même, la fuite, de gaz, elle double le taux d'émission de méthane. Pour tout le bassin de Los Angeles, et à l'échelle mondiale, c'est quand même très très gros. Et quand même, ce que je disais avant, c'est en deux mois, ça représente le quart de ce qui est normalement dégagé en un an. Quoi. C'est quand même pas rien en deux mois. Et d'autres pareils, d'autres experts qui avertissent quand même sur le risque environnemental qui serait colossal, et qui dit qu'effectivement, c'est un gaz à effet de serre très nocif, 80 fois plus dangereux pour la couche d'ozone que le CO2. Donc encore une fois, là aussi, c'est pas parce que ça fait pas grand-chose sur les êtres humains directement que ça fait rien à tout ce qui en fait leur permet de vivre.
Il faut expliquer juste une chose, ouais. un peu de chimie.
Ouais.
C'est parce qu'en fait, le méthane est beaucoup plus léger que le CO2. Donc en fait, il monte beaucoup plus haut dans l'atmosphère et donc il se rapproche de la couche d'ozone. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus dangereux parce qu'il peut diluer ce qu'on appelle un effet de dilution de la couche d'ozone. C'est-à-dire qu'il vient se mélanger avec le O3, qui est l'ozone, qui nous protège des rayons UV et que du coup, plus vous diluez la couche d'ozone et moins elle protège des rayons UV.
C'est
cool.
Mais oui. Merci pour ces.
Non, de rien, mais.
Cet éclairage. Et donc, alors là, maintenant qu'on a un peu tout resitué quand même, parce que je trouvais que c'était quand même intéressant, pourquoi ça dure? Bon, alors on a fait des essais, ils ont fait des essais hein, pour colmater tout ça, en injectant du liquide, de la boue dans le puits.
Un bouchon de liège.
C'est ça. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché. Donc là, ils sont partis pour le forage d'un puits de secours. Alors là aussi, moi j'ai découvert vraiment plein de trucs, hein, parce que je savais pas du tout comment ça fonctionne ce genre de truc. Et donc un puits de secours, en fait, c'est descendre plus bas que là où il y a la fissure.
Donc en dessous des 914
mètres. Donc on va descendre, alors là j'ai une mesure qui dirait jusqu'à 1,5 km sous terre, on descendrait. Pour pouvoir faire un deuxième conduit en fait où le méthane s'échapperait et là où en fait où on pourrait bien évidemment le récupérer, pas déconner. Et normalement, si tout se passe bien, normalement l'entreprise devrait arriver à mettre un petit bouchon temporaire. Hein ? C'est quand même vachement cool, moi je trouve.
J'adore l'idée.
Ouais, c'est t'as l'impression en fait que je sais pas, tu sais que tu répares un petit vélo quoi. Ouais,
enfin, on a mis une rustine, ça tient.
Ouais, c'est vraiment ça. Donc de ce que je disais, enfin ce que je disais dans les infos que je récoltais, c'est qu'en fait le travail est hyper compliqué parce qu'en fait il y a plein d'autres pipelines et qu'on a un petit peu peur en fait qu'en y allant un petit peu trop vite et trop profond, ben qu'on empête d'autres, ce qui les foutrait quand même pas mal dans la panade.
Bah nous aussi parce que tout le méthane qui est rejeté a un impact.
C'est tout le truc, c'est ça. C'est qu'après, on peut se dire, c'est pas notre gueule. Mais quand même, hein, ce qui se passe à un endroit, effectivement, après, quand on partage quand même tout ce qui nous permet de vivre.
C'est la fameuse mondialisation des emmerdes.
C'est ça. C'est ça. Et alors, ce qui est quand même bien, c'est que la compagnie gazière et les autorités sanitaires nous rassurent hein, et disent que la fuite de gaz ne pose pas de risque pour la santé. Même si à Forto, on peut quand même avoir des...
Je crois que c'est un petit peu toujours le même truc un peu avec les Américains en particulier qui sont extrêmement climato-sceptiques, surtout les compagnies gazières, où en fait, on dit oui, comme ça tuera personne, ça n'a pas d'impact sur la santé, puis bon, si ça réchauffe un peu, nous on n'y croit pas, donc ça réchauffera pas. Sauf qu'en fait, en réalité, le méthane dans l'atmosphère, c'est un effet calorifuge, je crois, qui est 10 fois supérieur à celui du CO2, 10 ou 20 fois supérieur. Donc, t'imagines, ça risque de... Voilà, ça accélère encore le réchauffement climatique. Quoi.
Alors justement, tu parlais des entreprises gazières, on va continuer de parler de celle-ci, en tout cas de Socalgaz. Bon alors, eux, enfin cette entreprise, il lui a fallu quand même, bon allez, 3 jours pour dire bon ok, il y a une fuite. Bon, il en a fallu 3 semaines pour dire bon ok, c'est pas une fuite ordinaire.
Elle est un peu plus grosse que...
Elle est un petit peu plus grosse que ce qu'on avait prévu. Hein. Donc voilà, hein, tout va bien, effectivement. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours dans cette information des populations.
Mais comment on peut mettre 3 semaines à mesurer ce qui s'échappe en gaz ? C'est super simple à mesurer. Ça ne demande pas 3 semaines. Quoi.
Logiquement, oui, ça devrait. Non. Mais c'est pas si simple que ça. Et en fait, ce qui maintenant, enfin, l'entreprise, elle est accusée, en fait. Enfin, de savoir depuis longtemps qu'elle a des infrastructures pourraves, que ça se détériore vachement et que pas mal d'infrastructures autour en fait sont assez vieillissantes et qui font pas grand chose en fait pour lutter contre ce vieillissement en tout cas.
Mais il y a l'État quand même aux États-Unis.
Ouais, alors j'allais venir aux autorités publiques après, mais là, je vais quand même terminer une fois par un petit mot du porte-parole de Socalgaz, donc Michael Mizrahi, qui affirme que la société réalise que la fuite a perturbé la vie de milliers de gens et qu'elle aura un impact écologique. Et elle fait le maximum pour le colmater. Voilà. Merci. On a envie de lui dire merci.
Moi, j'ai envie de lui dire, il est digne de South Park avec l'épisode sur BP où le patron de BP arrive en disant « Nous sommes désolés ».
C'est ça. C'est ça. Ils font plein de clips en disant juste « Nous sommes désolés ».
C'est magnifique.
Mais on s'en fout que tu sois désolé.
Tu vas pas faire quelque chose.
Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et donc, alors, on va continuer avec les autorités publiques, effectivement. Et alors, elle commence à être un petit peu pointée du doigt pour leur laxisme parce qu'il y a un journal de Los Angeles en fait qui rapporte que le puits n'aurait pas été inspecté depuis 1976.
Comment ? Mais comment cela est-ce possible alors qu'ils avaient un grand écolo, Arnold Schwarzenegger, à la tête de la Californie, qui vient à la COP21 nous expliquer comment sauver le monde ?
Mais je crois qu'en fait,
ils s'en
tapent en fait, hein, c'est un peu le problème.
Non, mais ça démontre bien le côté complètement surréaliste d'avoir encensé Arnold Schwarzenegger comme ça a été le cas quand il était gouverneur de Californie et quand il était à la COP21 récemment à Paris et qu'on voit qu'en fait le gars n'a pris aucune mesure sur des choses aussi simples que ça.
C'est
quoi.
Jeu politique hein, je reviendrai un peu plus tard parce que je me fais quelques petites réflexions et donc effectivement les autorités publiques sont pointées du doigt autour des inspections qui ne sont pas faites. Il y aurait une valve de sécurité qui aurait pu bloquer l'arrivée de méthane qui a été enlevée en 79, pas remplacé depuis. Et donc voilà, et il aura fallu un mois quand même pour que les autorités de la région admettent la possibilité de risque pour la santé. Alors effectivement, on peut se dire ça fait pas grand chose. On a vu qu'il faut une forte densité, enfin une forte concentration.
C'est quand même après sur les enfants, c'est quand même, ça peut être très.
Alors c'est le truc, c'est qu'il y a quand même des habitants qui se plaignent de maux de tête, de vomissements, certains autres de saignements, etc. Enfin.
Oui, puis si vous avez
c'est pas rien non plus quoi.
Si vous avez un taux de méthane très élevé dans l'atmosphère, enfin dans une pièce confinée par exemple, vous savez que vous avez un taux d'oxygène beaucoup plus faible, donc vous risquez l'anoxie, c'est-à-dire le fait de tomber dans les pommes et de voire même de mourir d'asphyxie quoi.
Et oui. C'est ça le truc. Et donc voilà, donc un petit mois quand même pour se dire que c'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Et le 6 janvier, le gouverneur de la Californie a décrété l'état d'urgence. Voilà.
Et on est bien content. Par contre, il a rien fait d'autre. Mais il a dit qu'il faut faire quelque chose.
On peut pas non plus. On peut pas résoudre tout en comme ça.
Si je comprends bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, l'installation n'a même pas de vanne de fermeture.
Non. D'arriver. En tout cas, ce puits-là, non.
C'est juste dingue.
Alors après, c'est toujours pareil. Après, c'est moi. Enfin, j'ai. Enfin.
Non, mais imaginons
un truc américain. Je sais pas. Enfin, j'ai pas la proximité géographique. Ouais, mais qui me permet de connaître aussi.
Il y a pas de raison. Enfin, il y a pas de raison qui mente, quoi. Je veux
effectivement.
Dire. Mais par contre, ce qui est quand même dingue, c'est qu'imaginons au lieu d'avoir une fuite, vous avez un incendie qui se déclenche. Ils ne peuvent pas couper le méthane qui arrive.
Bah, c'est un peu ça, quoi.
C'est un truc de fou, quoi.
Bah, c'est vachement rassurant.
Vas-y, laisse brûler.
Donc voilà. Après, moi, je me suis fait quelques réflexions autour de tout ça, parce qu'effectivement, c'était ça. C'est, en fait, les industriels sont pas du tout préparés. Matériellement, en fait, il y a rien. Enfin,
ils s'en foutent, quoi.
On contient pas du tout un incident comme ça, en fait. Parce que, bon, on s'en fout, c'est des pièces qui sont plus là. 40 piges après, sont pas là, et on s'en tape vraiment. Bah, que les autorités fédérales, pareil, elles sont loin d'être quand même indépendantes. Alors, je mets fédérales, mais enfin, elles sont étatiques.
Oui, bah, en France, de Californie et la fédérale américaine.
Et tout, enfin, je veux dire, et enfin, on a eu aussi des exemples en France où, bizarrement, quand même, nos responsables politiques, enfin, les responsables politiques, c'est pas forcément les miens, c'est pas les miens, et bah, ils sont toujours plus à coquiner avec les industriels, parce que bon, on dira que faut pas faire trop de bruit quand même pour le business, sinon les gens vont être méfiants, parce que d'un coup, les gens vont se rendre compte qu'autour d'eux, bah, ils ont peut-être des trucs qui doivent être, sur lesquels ils doivent être un peu plus informés quand même.
Bah, c'est l'exemple typique, tu parlais des politiques, de la Commission européenne qui vient de dire les véhicules polluent beaucoup. Mais les constructeurs n'arrivent pas à obtenir les normes qu'on voulait mettre. Donc au lieu de dire on engueule les constructeurs, on dit ah bah non, on va remonter les normes au-dessus de ce qu'on avait mis au départ. Ouais. Et comme ça, tout le monde est dans les normes.
Ouais.
C'est juste fou, quoi.
Et puis je pensais aussi aux incidents qu'il y a dans les centrales nucléaires régulièrement en France. En fait, c'est ce qu'on vous suivait un peu les militants, militantes de ce milieu-là, vous vous rendez compte qu'il y en a quand même régulièrement des petits problèmes, c'est toujours anodin. Sauf qu'en fait, il n'y a vraiment pas d'infos qui circulent vraiment là-dessus. Et que, là encore une fois, en fait, les gens, ils sont pris pour des abrutis. Enfin, pour moi, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on accepte en fait que notre mode de société, enfin, je veux dire, là, il faut du gaz parce que, parce qu'il faut se chauffer, parce que tout ci, parce que tout
ça. Parce que la Californie a énormément misé sur le méthane.
Donc, je veux dire, après, voilà, ça veut dire qu'il faut aussi accepter les à côté de notre mode de vie, notre société. Mais que ça peut être fait avec de l'intelligence, avec du savoir, c'est-à-dire dire aux gens, alors s'il y a ça, il faut peut-être mettre en place des modes de... Et là, en fait, on prend les gens pour des abrutis, vraiment. Enfin, il y a deux, trois témoignages de gens qui disent, en fait, on est laissé là comme des merdes et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin, on ne parle pas, on nous...
Et on met les gens en danger, en plus.
Mais c'est tout le truc,
c'est ça,
en fait. Alors que Donc voilà, c'était toujours, et encore une fois, c'est pas de conspirationnisme, c'est pas du tout ça l'idée, c'est juste, toujours le jeu commun entre les politiques et les industriels qui ont toujours plus de facilité à faire jeu commun et plutôt qu'à penser au bien commun, justement, en fait.
Ben, c'est clair.
Donc voilà.
Et moi, si je peux vas-y.
Non, je voulais juste, parce que je crois que je l'ai pas annoncé, alors là, normalement, ça devrait être réparé. Février ou mars, quoi.
Ouais, mais ça fait 6 mois quand même. 6 mois de fuite, quoi.
On n'est pas loin. On n'est pas loin.
Octobre.
On n'est pas loin des 6 mois, quoi.
C'est hyper long.
Ouais. Et puis c'est pareil. Enfin, moi, je crois que la fuite avait été révélée par des militants, en fait, qui étaient autour. Ouais. Et c'est là encore une fois, tu te dis, si ces militants ou militantes n'avaient pas foutu un peu de pression, vous n'avez pas. Donc, ça traînerait encore.
On va juste, quand même, pour les auditeurs et auditrices, dire une chose. Pour voir une fuite de gaz du type méthane, oui, c'est très très simple. Vous prenez une caméra thermique, vous filmez. Et non, mais je veux dire, c'est simple, oui, parce que la technologie, elle n'est pas compliquée, quoi.
Oui, oui.
Et en fait, le gaz étant beaucoup plus froid que l'atmosphère, bah, en fait, vous voyez une différence, vous voyez une colonne colorée qui dit bah, là, il fait froid. Et en fait, bah, on voit qu'il y a une fuite. Et plus la fuite est grosse, plus la colonne est large. Et en fait, ce n'est pas complexe. C'est n'importe quelle entreprise. De la taille de la, je ne me rappelle plus le nom de la société
de la Socalgaz.
Voilà, Socalgaz. N'importe quelle entreprise peut avoir ce genre d'outil. Ça coûte pas très cher une caméra thermique. C'est voilà. Mais donc du coup, on voit bien qu'ils s'en foutent, quoi, parce que ils ont même pas les outils de détection de base d'une fuite de gaz, quoi.
C'est tout le truc, quoi. C'est que encore une fois, enfin, quelles sont les autorités qui sont censées quand même à un moment donné avoir une forme de de surveillance, quoi. Enfin, on parle pas non plus de, enfin, je sais pas, c'est pas une fabrique de yaourt, quoi. Enfin, tu vois, c'est
clairement.
Donc c'est, et ça, on peut, alors là c'est un exemple américain, mais on peut ramener en France avec plein d'autres exemples, hein. On a le nucléaire, etc. Quels outils de surveillance, etc., etc.
Quels outils citoyens de surveillance,
comme
pour revenir aux citoyens, mais non, mais quels outils on laisse aux gens qui habitent autour, par exemple,
clairement,
de comprendre ce qu'il y a à côté.
Clairement,
ça c'est inadmissible. Enfin, moi j'avais vu le reportage, c'est sur Euronews, où ils étaient allés dans le village qui est pas très loin de la fuite, où il y a une femme qui dit bah, en fait on est arrivé un matin, on a tapé à ma porte, on m'a dit bah maintenant faut que vous déménagiez, voilà, et voilà votre nouvelle adresse. Et elle n'avait ni qui lui l'obligeait. Tout ce qu'elle avait, c'est que c'était le qu'on appelle ça le shérif de la ville, parce que là-bas il y a des shérifs, qui était passé lui dire voilà ta nouvelle adresse, faut que tu déménages et tu dois pas être parti avant la fin de la journée. Elle ne savait pas, elle ne comprenait pas pourquoi. Et c'est juste dingue de se dire qu'on peut dire aux gens bah, déplace-toi, mais je te dirai pourquoi plus tard.
Ouais, mais c'est tout ça. On laisse vraiment les gens dans l'ignorance.
Et puis donc voilà.
Je sais pas quoi rajouter de plus.
Non, mais c'était bien. En tout cas, il y a une chose que je note, Jean-Yves, c'est que tu es prêt pour aller en Californie car tu as un accent américain.
Ouais,
génial.
Hein. Ouais, je sais. Je pense que d'ailleurs, je vais avoir des appels ce soir. Une carrière m'attend de côté de. C'est quoi le truc qui nous sépare? La Méditerranée. Ah, l'Atlantique, ouais, c'est un océan, tout ça. Ouais. Enfin, bref.
Là, non, tu peux conduire très vite pour traverser.
C'est ça, je prendrai le train. Allez, on s'écoute un peu de musique. On arrête nos conneries. Et vous êtes de retour à l'écoute de la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter La fin des temps du groupe Mansfield Tia. C'est issu de leur dernier album. Je crois que c'est le troisième extrait que j'en passe.
Vous aurez l'album complet si vous écoutez toutes les causeries.
Non mais enfin, c'est très bon, et si vous avez la chance d'aller les voir en concert,
ouais, c'est vraiment bien.
C'est délicieux, c'est planant, c'est vraiment très frais.
Ouais.
C'est très frais.
Et si vous fouillez un peu sur les internets, vous pouvez trouver des images assez cool du concert et un enregistrement qu'elles avaient fait.
Ouais, c'est vrai.
Pour je ne sais plus quelle radio.
Une radio du service
France
public.
France Inter, ouais, je crois.
Ouais, voilà. France, ouais.
Et donc Jean-Yves, tu voulais nous annoncer une super bonne nouvelle.
Ça va être rapide, avant de repasser un petit titre et avant de passer au bref. Mais c'était parce que dans la causerie 114, c'était au mois d'août, c'était le 16 exactement, je vous avais parlé du tome 1 et 2 des Vieux Fourneaux. Ouais. Et je crois que j'avais terminé ma présentation, je sais pas comment on peut appeler ça, ma chronique, en vous disant le tome 3 devrait pas tarder. Et ben il a pas tardé. Et c'était pour vous en parler, c'est juste pour vous dire courez, allez la lire, enfin allez lire ce nouveau tome, c'est excellent. Je vais quand même rappeler vite fait avant, le dessinateur c'est Paul Coet, et le scénariste c'est Wilfried Lupano, qui a fait bien d'autres choses dont on vous parlera certainement encore. Et donc voilà, donc ce troisième tome, vite fait, hein, c'est vraiment très rapide que je vous en parlais, mais c'est plus axé sur Mimil, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était un de nos compères du troisième âge, là, de tous ces vieux et vieilles militantes. Et bah, c'est sur son passé de baroudeur, qui était, enfin, il naviguait sur le Pacifique. Tiens, le Pacifique, on était avant sur l'Atlantique. Mais voilà.
En Californie, t'es sur le Pacifique.
Ouais. Donc, il était joueur de rugby. Ça va parler d'amitié lointaine aussi. D'un départ qui a eu lieu dans le passé. Et puis, bah, certains de nos héros deviendront un petit peu plus humains, en fait. Ou en tout cas.
Un peu moins parfait.
Il va y avoir une partie. De leurs actes qui vont leur revenir un peu dans la gueule du passé, et c'est vraiment, enfin, c'est toujours aussi bon. Il y a toujours encore des actions du groupuscule ni yeux ni maître. Ils continuent de faire chier cette société capitaliste et tout ça et tout ça. C'est, enfin, allez-y. Il y a toujours notre vieille là, qui, vous savez, qui a son squat. Elle a un gros squat. En tout cas, elle a un gros immeuble parce que c'est une vieille bourgeoise. Elle l'a ouvert à plein de gens. Vous voyez, des migrants.
Ça pouvait donner des idées à Lyon.
Ça serait bien.
On en connaît qui ont des immeubles et qui ne les ouvrent pas, hein.
Et donc voilà. Toujours encore des super dialogues. Enfin, franchement, allez-y, ce tome 3, c'est donc celui qui part. C'est les Vieux Fourneaux et c'est, je crois, chez
Dargaud.
Oui, pardon, c'est Dargaud, la maison d'édition. Ouais, vas-y.
Ouais, non, tu as terminé ?
Ouais.
Ouais, donc je voulais juste te dire, avant qu'on lance un nouveau morceau, vous avez entendu parler sûrement des 8 syndicalistes de Goodyear qui ont été donc condamnés à 9 mois de prison ferme parce que l'État a maintenu sa plainte face à eux, alors que leur patron avait retiré leur plainte à eux. Voilà. Donc en fait, c'est la première fois sous la 5e République que des syndicalistes risquent de la prison simplement parce qu'ils ont combattu le système capitaliste et qu'ils ont combattu leur patron qui les virait. On va rappeler les faits, hein. Il y a eu donc une séquestration, ce qui est très très grave, il paraît, de 30 heures. Donc voilà, en fait, pour être très clair, les gens qui sont condamnés là sont ceux qui ont servi de médiateurs. Parce que je vais rappeler juste comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait 400 personnes dans une salle, qui ont convoqué 2 cadres de Goodyear et qui leur ont demandé de venir s'expliquer sur le fait qu'ils viraient 1350 personnes. Et les 2 cadres sont arrivés, et en fait, au départ, ça aurait pas dû se passer en séquestration. Très honnêtement, ça aurait pu mal tourner, tout le monde le dit, y compris les gens qui étaient dans la salle. Et en fait, les personnes qui sont aujourd'hui condamnées sont celles qui ont essayé de tempérer et de dire non, on va quand même pas les lyncher tout de suite, et je prends le mot lynchage exprès. Et on va quand même essayer d'être un peu plus humain que ces personnes qui ont la capacité de vous regarder en face pour vous virer en vous disant que c'est pas grave. Donc voilà, et c'est donc ces 8 personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui à risquer 9 mois de tôle. Il y a une pétition en ligne aujourd'hui qui s'appelle « Nous sommes tous des Goodyear ». Je vous invite à aller la signer. Vous tapez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous allez la trouver assez facilement, sinon sur le site de l'Humanité. Et allez soutenir. Et surtout, il va y avoir des rassemblements à droite à gauche partout en France, un peu comme on fait pour Notre-Dame-des-Landes. c'est-à-dire pour soutenir l'action syndicale et soutenir ces 8-là en particulier. Voilà, il y a plein de gens aujourd'hui qui viennent, notamment des personnes célèbres. Alors je dis pas que c'est bien, hein, mais je dis simplement qu'elles sont venues un peu d'elles-mêmes, elles n'ont pas été contactées pour. Et c'est surtout intéressant de voir que ben ça résonne un peu encore à auprès de gens qui ben, qu'on n'aurait pas forcément pensé intéressés par le sujet. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à les soutenir et à signer la pétition déjà, et puis ben vous renseigner pour les futurs rassemblements. Là, on parlera sûrement dans la causerie s'il y a quelque chose qui se fait sur Lyon. Voilà.
Ouais. Et rappelons-le, les criminels, ce ne sont pas ceux qui défendent leur emploi, en fait.
Clairement pas, non.
C'est ceux qui licencient et qui font que plein de gens.
Moi, je vais juste te dire ce qu'a dit un des condamnés. Lorsque le tribunal a rendu son verdict, on a dû sabrer le champagne chez Goodyear. Et je pense qu'il a raison. Mmh. Et c'est là que c'est grave. Voilà.
Bien sûr. Bon, allez.
Musique.
Petite musique avant les brèves.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider, je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade, petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus il recommence. Inconvenance. Quoi si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Vous êtes bien de retour dans La Causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Voilà, bah, c'était une chanson d'Anne Sylvestre qui, je trouve, personnellement, elle s'appelle juste une femme, et comme vous avez pu l'entendre, elle parle des différentes violences que peuvent subir les femmes. Alors aujourd'hui, on est dans un climat assez pourri où certains instrumentalisent des violences, et on va rappeler juste qu'un viol est un viol, une violence est une violence, et que toutes se condamnent, et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être pas non plus jouer aux ultra-féministes quand on est d'extrême droite, parce qu'on sait bien que c'est pas trop votre tasse de thé. Voilà.
C'est ça, c'est pas le patriarcat qui dénonce.
C'est clair.
Et juste qu'on n'oublie pas que les viols, c'est sur les places publiques, c'est aussi dans les chambres à coucher.
Tout à fait. Alors. C'est ce que Anne Sylvestre chante très bien, c'est d'ailleurs. Et voilà. Et juste pour dire que c'est sur son avant-dernier. Non, si, c'est ça, sur son avant-dernier album. Et que bah, comme vous pouvez l'entendre, Anne Sylvestre est toujours vivante et chante toujours, et ça fait plaisir. Voilà.
Yes. Allez, on termine avec des brèves. On sera dans les temps, c'est formidable. Vas-y.
Ouais.
Vas-y. Vas-y. Vas-y.
Alors, on va commencer par le 19 janvier, donc c'est mardi. C'est Sophie Perrin qui appelle à soutien, enfin à venir la soutenir au tribunal de grande instance de Lyon. C'est à 14h. C'est un bras de fer, comme vous le savez, avec, on va dire, le gratin de l'université, et puis enfin, surtout les directions de l'université. Et donc voilà, elle a besoin de soutien, donc on vous invite à partir de 14h à venir la soutenir dans la salle du tribunal de grande instance de Lyon. Voilà.
Et le 19 toujours, il faudra choisir.
Ouais. Bah oui, malheureusement.
C'est compliqué d'être aux deux endroits en même temps. Il y a un piquet de grève en fait en soutien à un syndicaliste en fait qui est menacé de licenciement à la Poste. Ouais. Oui, les temps sont difficiles pour les syndicalistes. Et ça se passera, donc, je l'ai dit, le mardi 19 toujours, à 14h, et c'est place Antonin Poncet.
Voilà,
c'est la grande poste de Lyon.
Et on va juste souligner que c'est donc la CGT, parce que le syndicaliste en question est CGT, et Solidaire qui appelle en priorité. ensuite, il y a une réunion publique le 20 janvier. Du collectif Solidarité avec les réfugiés EES et les migrants et migrantes. Voilà, c'est à 18h30 à la Bourse du Travail, dans la grande salle de la Bourse du Travail. Voilà, c'est pour un petit peu voir un peu où on en est des différentes lois, de tout ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Et puis vous savez qu'en ce moment, le délit de solidarité est pas mal condamné, donc comment est-ce qu'on peut aider sans risquer de se faire mettre en taule, par exemple. Voilà.
C'est un collectif large.
Oui, c'est un collectif très large, ça va d'associatifs à des partis politiques, en passant par des syndicats. Voilà.
C'est bizarre, et quel parti politique ?
Non, je voulais pas polémiquer.
Ah pardon, ok, d'accord. Non, alors je me tais.
Il y a des signatures personnellement qui me surprennent, mais bon, voilà, écoutez, c'est
Vas-y, dis.
Non mais par exemple, il y a une partie du Front de Gauche qui appelle.
Ouais, c'est bien ça, ce que je me disais.
Quand le Front de Gauche vote l'ultra-majorité, des lois ultra-liberticides, ça me surprend. Mais bon, après, ça fait partie des incohérences de la vie politique.
C'est ça. Ok, bon allez, on polémique pas plus. Le vendredi 22 janvier, il y aura la diffusion du film « Je lutte, donc je suis » de Yanis Yuluntas. Ça se passera à la Plume Noire, locale de la CGT. Un groupe, une coordination
des groupes anarchistes.
Des groupes anarchistes. Et c'est à 19h, c'est rue Burdeau, je crois. C'est ça. Et c'est à 19h donc, et c'est suivi de concerts. Voilà.
Et le lendemain, le 23, il y a une rencontre-débat, donc c'est le samedi 23, rencontre-débat autour du livre « Les Nas » de Li Juhazui. C'est pour ça que tu m'as laissé le dire.
Non. Voilà.
Donc c'est une région de Chine. Alors, c'est avec Pascal-Marie Milan, qui est une anthropologue. C'est à la Griffe, à 15h. Alors, on va juste rappeler que les Nas, c'est une population, je crois que c'est le nord de la Chine, si je ne dis pas de bêtises. Mais je dis peut-être une grosse connerie, mais en tout cas, c'est en Chine. Et en fait, c'est une population où il paraît qu'il n'y aurait pas de père et qu'il n'y aurait pas de mari. Voilà, et que tout serait merveilleux. Sauf qu'en fait, a priori, l'anthropologue vient un petit peu remettre les pendules à l'heure et expliquer que c'est pas si simple que ça. Voilà, donc c'est samedi 23 à 15h à la Griffe.
Et ben voilà.
On a fait le tour des
brèves. Ouais, c'était un agenda bien rempli, dites donc.
Ouais.
Et on va se laisser là, je crois bien.
Oui, alors avant, on va quand même dire par qui on se quitte.
Bien évidemment, c'était salutations, tout ça.
Ah, tu veux dire au revoir et puis après je donne la musique ?
C'est comme tu
veux. Non, moi je veux peut-être donner la musique, après on dit au revoir, c'est plus joli dans ce sens-là.
Allez.
Donc, dire juste qu'on va. Difficile.
Toi aussi, hein.
Okay. Vous êtes fatigué, vous voulez y aller ?
Non.
Difficile pour moi, personnellement, et je pense peut-être pour d'autres personnes à la causerie, de quitter cette émission sans rendre un hommage à David Bowie. Qui nous a lui quitté il y a quelques jours. Juste dire, on va pas faire dans le larmoyant parce que David Bowie a mis en scène sa vie, toute sa vie, et il a y compris mis en scène sa mort. Donc après tout, c'est qu'il l'avait suffisamment intégré lui-même pour qu'on n'en soit pas effondré. Mais juste dire qu'il a servi de modèle à beaucoup de gens, et y compris des petits gens qui, chez eux, regardaient la télévision et se disaient « Ah, en fait, on peut être un peu différent de ce que la norme nous impose ». Et rien que pour ça, c'était un grand monsieur. En plus, c'était un grand monsieur pour la musique, et c'était aussi un très grand monsieur pour le cinéma, ce qui fait beaucoup quand même. Donc allez, on va arrêter de dire du bien de David Bowie. On se quittera avec « Hit » de David Bowie.
Et puis, ça date de quand ?
C'est son avant-dernier album 2013, okay. Si ma mémoire est bonne. Mais bon, il y a des puristes qui nous écriront des mails pour dire non, c'était 2012.
Voilà. Bon, les puristes,
mais je crois que c'est 2013 vraiment. Et voilà. Et c'est juste pour. Voilà. Moi, je trouve que c'est un. un petit hommage pour dire quand même qu'à un moment donné, ben, on a aussi le droit d'être un peu triste pour les grands qui nous quittent, mais qu'on n'a pas besoin de pleurer toute l'année. Voilà. Non, pardon.
Okay. Je,
non, c'était pour faire un petit... Voilà, c'était pas très gentil de ma part.
Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Non, mais rien. Ouais, mais voilà, puisque, ben, c'est juste que je trouve qu'à un moment donné... Bah, les gens meurent, c'est normal, c'est naturel de mourir,
oui.
Voilà, et que bon, on peut être triste, tout ça, machin et tout, c'est pas un souci, mais je trouve que il y a quand même un côté où on en fait vraiment beaucoup, et que voilà, moi j'ai envie de lui rendre hommage parce que dans ma vie personnelle, il a eu un impact important, mais après voilà, c'était pas un proche non plus, et je veux pas non plus dire que je suis effondré, voilà.
Non, c'est, mais parce c'est, que moi j'aimerais quand même annoncer à tout le monde, c'est qu'on va vraiment
et on va tous mourir.
Tous mourir.
Non. C'est
Ah merde, je suis désolé Clara, je voulais pas détruire ta... Mais ouais en fait, hein, vraiment.
Et d'ailleurs,
ah, pas tous au même moment, enfin peut-être pas, mais on sait pas. Mais...
Ça dépend, il y a des gens qui peuvent rentrer.
C'est vrai, ça dépend. Mais quand même, tu vois, mais ouais, ça va vraiment voilà. Se finir. Quoi.
Non mais voilà, mais quand même, Bowie était un grand monsieur et c'était juste pour lui rendre hommage, mais pas non plus en faire des tonnes.
Mais oui. Voilà. Et ben voilà, et tu voulais peut-être rajouter non, qu'il y avait une émission...
Oui, alors si, pour les fans de Bowie, parce que ça reste quand même un mec qui faisait non, de la musique.
Y a une... Moi après, je parle à titre perso, on fait majoritairement ça ici. Ouais. Moi je connaissais pas énormément et justement bah, l'émission qu'il y a eu...
Aujourd'hui à
19h.
Ouais, c'est Boomerang qui était à 19h aujourd'hui et qui a fait une spéciale David de Bowie, parce que ça reste quand même vachement bon à écouter, hein, ça restera je pense très très longtemps vachement bon à écouter, donc je vous invite à aller sur les blogs de Radio Canu et vous cherchez l'émission Boomerang. Bon, vous cherchez aussi la causerie, mais cherchez quand même Boomerang, c'est sympa. Et vous réécoutez, c'était
Il y a 50 minutes de titres enchaînés les uns derrière les autres, il n'y a pas de blabla, rien. Voilà. Ça vous changera de la causerie.
C'est ça.
Bon, et ben on vous souhaite bonne soirée, bonne semaine, bon courage à toutes et à tous.
Ouais.
Ciao Clara.
Ciao. Salut Clara.
Ciao, ciao Fab.
Salut.
Et à plus.
À plus.
Ciao, faites de beaux rêves.
Le point levé et les pieds sur le pavé.
Aussi.
father and the prison. My father and the prison.